Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour la quatrième partie des 5 previews de la saison NBA 2023 par Doc Hebdo. Aujourd'hui, je récupère la présentation, un peu comme au DH20, puisque après s'être occupé du bas du classement, il me laisse le fauteuil, c'est évidemment Ben. Comment ça va, Ben ?
Ça va très bien, Adrien, on remonte le classement petit à petit. 4 sur 5, je ne ferai pas 5 sur 5, hein. Je vous laisse le haut du panier, mais ça va très bien.
Eh bien, tant mieux. Et puis, une nouvelle fois, nous sommes trois aujourd'hui et on est avec celui qui partage mon... Alors, j'allais dire désarroi, mais peut-être plutôt exaspération quant à la gestion ubuesque de l'Olympique lyonnais. C'est Amine. En dehors de ça, Amine, comment ça va ?
Ça va. Beaucoup de previews, moi aussi, cette fois-ci. Très content. Je vais juste rater mes Sixers, mais pour le reste, je suis très content d'avoir fait ça.
On a à peu près tous raté, ou presque, notre équipe, j'ai l'impression, à part ouais. Constant, peut-être, mais... De mémoire,
ouais. Tom a pas eu les Grizzlies, Gabin a pas eu les Raptors, Ilias a eu Détroit. Si, ah. Ilias est constant.
Ouais, le bas du classement, finalement. Et donc aujourd'hui, voilà, pour nos previews, on commence à se rapprocher, alors si ce n'est des contenders, en tout cas des outsiders pour cette saison régulière, ceux qui vont se battre pour au moins aller chercher, ils vont tenter d'aller chercher l'avantage du terrain en playoff, a priori en tout cas. Donc après vous avoir rappelé. Que vous pouvez, comme d'habitude, chers auditeurs, nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Twitter. On se fait la pause traditionnelle et on démarre ce quatrième épisode des previews de la saison NBA par Dunk Hebdo. Alors messieurs, entrons directement dans le vif du sujet et vrai sujet pour démarrer cet épisode puisqu'on attaque avec les Brooklyn Nets donc projetés par le classement d'ESPN de Kevin Pelton, je le rappelle évidemment une nouvelle fois, à 45,6 victoires. Alors, si on revient sur la saison dernière, Brooklyn, c'était mitigé, mais tout de même, bon, 8e offense, 21e défense. On s'est posé une question, Ben, tu as posé une question, qui est qui jouera le plus de minutes au poste 5 cette saison ? Et vraie question, puisqu'il y a un trou à l'intérieur. Alors après, c'est pas forcément des joueurs qui ont joué énormément de minutes la saison dernière, mais on n'a plus de la Marcus Aldridge, plus de Blake Griffin, plus d'André Drummond. On va récupérer quoi ? Markieff Morris. On a toujours Nick Claxton, bien sûr. Et l'éternelle question du retour Ben Simmons. Ben, qu'est-ce qu'on fait du poste 5 du côté des Nets ?
Tu l'as dit, Adrien, c'est un peu un point de bascule. C'est un peu pour ça que j'ai posé cette question. D'abord parce que c'est objectivement leur moins bon poste des 5, hein, ce poste 5. Et puis aussi parce que ça rejoint un petit aspect théorique qu'on aime bien chez Dunk Hebdo. Alors d'abord, vraisemblablement, on donnera le poste de titulaire à Nick Claxton, qui est un joueur, je sais, qui est assez apprécié, qui a participé à 94 matchs en 3 saisons NBA. C'est très très peu. Et même si je pense que certaines de ses faiblesses, notamment au lancer franc, sont rédhibitoires pour des playoffs, comme on est sur une prévue de la saison régulière, ce que je me permets de rappeler pour les fans de certaines franchises, saison régulière, et bien du coup, je pense que ça passera. Mon petit problème, c'est plutôt, si j'ai posé cette question des minutes, c'est la tendance à se blesser de Nick Claxton. Son backup, en théorie, d'Aaron Sharp, c'est un joueur de deuxième année, ne suivant plus trop la draft, je ne l'ai pas vraiment vu. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un joueur qui a l'air solide au rebond, mais il a joué très peu de matchs la saison dernière, une trentaine, donc ça me semble un peu limite pour un poste de backup. Du coup, se pose la question du fameux voilà, serpent de mer Ben Simmons au poste 5. Il y a un petit paradoxe avec ça parce que première chose, Steve Nash semble vouloir beaucoup faire jouer, ou en tout cas c'est une de ses volontés, mais dans ce 5 small ball avec un Ben Simmons serait, s'il revient à 80% de ce qu'il est, le meilleur défenseur. Et d'un côté, tu lui demanderais peut-être d'être le protecteur de cercle, du coup, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui peuvent protéger le cercle. Donc à voir. J'ai un peu envie de voir comment vont faire ces Nets, parce que c'est une équipe qui a investi de manière assez étrange sur le poste 5, que des jeunes ou des vétérans en fin de course. Il n'y a pas eu de joueurs vraiment étiquetés solides depuis le départ de Jarrett Allen. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'ils vont faire.
Ah, du coup, Amine, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de Steve Nash? Comment articuler ce poste 5 du côté net sur la saison régulière, déjà, dans un premier temps?
Moi, je recruterais un pivot. Mais, mais je pense qu'avec l'effectif en place, je pense que Ben Simmons aura le plus de minutes au poste 5, pour la bonne et simple raison que, comme tu l'as dit, en fait, Ben, Steve Nash va donner beaucoup de minutes à Ben Simmons, et Ben Simmons et Nick Claxton en même temps sur le terrain, moi ça me paraît très compliqué, parce qu'il n'y a pas seulement l'absence de shoot, il y a les lancers où ils vont sûrement être très ciblés, les deux ont des pourcentages vraiment pas terribles au lancer franc, c'est vraiment se mettre une grosse difficulté de les mettre les deux ensemble. Donc sachant, comme tu l'as dit, que derrière c'est Daron Sharp, il est intéressant, c'est un joueur qui se développe doucement, il a lui pour le coup un tout petit bout de shoot, mais c'est très jeune et ça va peut-être faire un peu plus de minutes en régulière que l'année dernière, mais je pense que c'est pas encore prêt. Donc moi je pense que c'est Simmons qui aura le plus de minutes, et je suis un peu inquiet parce que la protection de cercle de Ben Simmons, c'est pas son fort, c'est un super défenseur mais c'est pas son fort. J'imagine que KD va faire beaucoup de protection de cercle en second rideau si Ben Simmons est au poste 5, mais j'ai un petit peu peur que Ben Simmons ait énormément de responsabilités sur lui cette saison. C'est-à-dire, on a l'impression que pour un joueur qui a pas joué depuis presque 2 ans, ça dépend de lui si les Nets vont faire une bonne saison ou pas. Parce qu'en dehors d'améliorer la défense, le plus gros défaut des Nets la saison dernière, il va aussi devoir améliorer au niveau playmaking, apporter le playmaking qui manque à cette équipe. Et c'est pareil, Ben Simmons, c'est un très bon playmaker, mais qui n'a pas le jump shot. Et ça limite tout de suite l'activité au niveau du playmaking. Et s'il ne revient pas en forme, ça risque d'être très compliqué, et pour lui et pour les Nets, en fait.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec vous, c'est à peu près ce que j'avais noté. Il y a deux aspects. Il y a déjà donc la paire théorique Claxton-Sharp qui pose un souci de temporalité. Moi, je l'ai noté comme ça. C'est-à-dire que par rapport au reste de l'effectif, notamment à Kevin Durant, Kyrie Irving, où tu as envie de gagner dès maintenant, ils sont peut-être eux encore en développement dans leur début de carrière, en tout cas en plus au poste de pivot qui met souvent un peu plus de temps à éclore, ou en tout cas à atteindre le niveau plancher nécessaire pour être au niveau d'un contender. Et puis la question Ben Simmons, bon, il y a plusieurs aspects. T'en as bien parlé, Amine, cet aspect, vous en avez parlé tous les deux, l'aspect terrain, l'aspect basket. Déjà, il y a les deux côtés du terrain, c'est-à-dire qu'il y a la défense, il y a l'attaque. Est-ce qu'en attaque, tu le fais jouer le rôle de pivot? Ça pose aussi une question. Ben Simmons, il est meilleur balle en main, surtout si tu veux rajouter du playmaking. T'as aussi quand même d'autres joueurs qui préfèrent avoir la balle en main. Bon, il pourrait être efficace théoriquement, c'est ça la théorie qui revient régulièrement sur short roll. Il pourrait prendre les décisions rapidement. Mais est-ce qu'il le veut vraiment? Pour moi, c'est aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a un aspect mental, psychologique. Avec le cas Ben Simmons, on sait qu'il a jamais vraiment voulu jouer poste 5. Il y a déjà cette problématique de retrouver le terrain, de retrouver l'envie, le plaisir de jouer, retrouver son niveau petit à petit. Est-ce que c'est maximiser les chances de retrouver Ben Simmons à son plein potentiel que de tout de suite le mettre dans une situation qui lui est pas favorable, déjà psychologiquement? Pour moi, c'est une vraie problématique. Et du coup, après, qu'est-ce qui te reste comme solution? Les quelques passages de Kevin Durant poste 5 qu'on a déjà vu où il devait un peu tout faire, mais on voit que ça commence à tirer. Hein. Kevin Durant, il est plutôt jeune aussi. Et puis, derrière, quoi, TJ Warren au poste 5, Markieff Morris. Bon, là, après, on arrive dans des fantaisies qui seront difficilement applicables, en tout cas, j'imagine.
Non, je suis assez d'accord. Et pour un peu rebondir, tu vois, avec ce qu'on dit là, ça prouve aussi... Alors, je pense qu'il y a une volonté offensive de Steve Nash de le mettre parce que... Alors, je vous rejoins. Offensivement, il y a certains problèmes, mais il y a toujours ce fantasme de se dire, avec un Ben Simmons qui distribue pour des shooters autour, tu lui ouvres les lignes de drive et ça peut... je pense que ça reste un fantasme. Mais moi, c'est vraiment ce sous-investissement, ou en tout cas, cette manière très... je vais pas dire analytique, mais c'est un courant de pensée dans la NBA qui pense que le pivot est un joueur qui est très facilement remplaçable. Et non, en fait, parce que la manière dont ils investissent dans le poste de pivot... Je pense que ça va être pour eux rédhibitoire à un moment, mais encore une fois, on parle de saison régulière, donc ça devrait passer sur de la saison régulière.
Bon, bah, du coup, pour conclure, pour résumer autour de ce qu'Annex, je vais vous poser une question un peu plus générale. Je vais te la poser à toi, Amine, là, du coup, pour démarrer. c'est quoi l'objectif? Comment on qualifierait la saison des Nets de réussie? Avec une qualification en play-off sans play-in, avantage du terrain sur la saison régulière, ça sent quand même compliqué, il y a du monde également à l'Est. Voilà, où tu places la barre pour cette preview de nouvelle saison NBA?
Je pense qu'une saison réussie pour Brooklyn cette année, c'est l'avantage du terrain. Avec tout ce qui s'est passé, justement, une saison où ils terminent 6-7e, je pense qu'on aura les mêmes problèmes l'été prochain, avec les mêmes dramas, et ça recommencera avec peut-être Ben Simmons en plus. On verra comment ça peut se passer. Mais en tout cas, en fait, ils sont obligés d'être très forts cette année. Je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je suis assez inquiet quand même pour eux, même si je pense que ça joue pas le play-in. C'est une équipe, pour moi, on va dire, entre 4 et 6, c'est là où ils vont se situer. Ils vont être à la bataille avec des équipes comme les Cavs, par exemple, comme le Heat. Mais je pense que l'objectif, c'est d'être très fort cette année et ils ont intérêt à l'être. Après, ils ont du personnel quand même. Ils ont ce manque poste 5, mais ils ont un gros personnel à côté.
Mais c'est vrai que si on parle en plus talent, en tout cas vers le haut, enfin, il y a toujours Kyrie Irving et Kevin Durant. Alors Kyrie Irving, quand il joue, évidemment, on connaît cette problématique. C'est vrai qu'on est un peu dur là avec les Nets, face à cette incompréhension, cette vraie problématique au poste 5. Ben, est-ce que tu crois que le talent, toi aussi, suffira pour aller chercher l'avantage du terrain?
Oui, c'est une problématique, donc on axe, mais moi, je regarde le bilan de la saison dernière. Avec tout ce qui s'est passé, ils en gagnent 44 l'année dernière quand même. Donc, pour moi, j'ai 6 équipes identifiées qui vont se battre pour l'avantage du terrain et je les mets dedans, en fait. Donc, pour moi, sans ordre particulier, Milwaukee, Cleveland, Boston, Philadelphie, Brooklyn et Miami. Ce sont les 6 équipes qui se battent pour l'avantage du terrain et je les sors pas de ce groupe-là. Je pense qu'ils peuvent finir à peu près partout de 2 à 6. Je serais étonné qu'ils finissent 1, mais 2 à 6, ça me paraît possible.
Il existe peut-être un monde parfait où Ben Simmons revient à un niveau extraordinaire. La théorie se réalise et peut-être qu'ils finissent tout le temps haut, mais effectivement, ça semble un peu compliqué. Réponse, donc évidemment, en fin de saison, mais on va continuer puisqu'on a encore pas mal d'équipes à voir, notamment aujourd'hui. Changement de conférence. Et autre vrai sujet, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a fait beaucoup parler d'elle à cette intersaison avec le plus gros trade hein, finalement. Vous me voyez venir, on va parler des Wolves, de l'arrivée de Gobert. Donc les Wolves qui sont projetés à 45,7 victoires, c'est-à-dire 0,1 au-dessus des Nets. Donc c'est finalement assez peu. Donc après une saison plutôt correcte, 7e offense, 13e défense. Donc on est, voilà, on est au milieu de la ligue du côté des Wolves, mais on vient de récupérer Rudy Gobert, hein, c'était la grande info de cette intersaison. Alors, question posée par Ben, mais cette fois-ci, du coup, Amine, je vais te lancer toi. On entendra Ben derrière. On a vu des progrès, d'ailleurs, en défense l'année dernière. On rajoute Gobert, qui statistiquement doit aider, d'ailleurs, dans cette projection d'ESPN, ce modèle mathématique. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que les Timberwolves vont devenir une vraie menace défensive et garder leur efficacité, Amine?
Ils vont forcément être une bonne défense cette année. Quant à Rudy Gobert sous ton panier, c'est difficile de pas être une bonne défense. Même le Jazz, qui jouait avec quatre personnels qui ne défendaient pas autour de Gobert quasiment en entier, on avait une défense bonne. Ça se voyait qu'il y avait des problèmes dans leur défense, mais tu avais une défense bonne au niveau des ratings. Et donc cette année, quand tu ajoutes Rudy Gobert, forcément tu as une bonne défense. Moi, la question que je me pose sur leur défense, elle est au niveau de Towns au poste 4. Ça, c'est une vraie question. J'ai du mal à l'imaginer à ce poste défensivement. C'est sûr que Kat, c'était pas le meilleur pivot défensif, ça, c'est un euphémisme. Mais défensivement, je le trouve quand même plus intéressant au poste de pivot qu'au poste 4. J'ai un peu peur qu'il se fasse un peu exposer face à des ailiers plus rapides et des joueurs qui ne lui conviendront pas en défense. Maintenant, il faut quand même ajouter qu'il n'y a pas que Gobert qui est arrivé, il y a Kyle Anderson et PJ Dozier, et c'est deux très bons défenseurs, surtout Kyle Anderson, c'est vraiment un excellent playmaker défensif. Donc ça va être une très bonne défense cette année, meilleure que l'année dernière.
Est-ce que quand tu as posé la question, du coup, Ben, toi aussi, c'était le cas Karl-Anthony Towns qui te posait question, parce que bon, on lui reprochait, justement, comme tu le disais, Amine, au poste 5, de peut-être pas trop aimer le contact. Peut-être que le poste 4 lui scierait plus, mais peut-être un peu peur. C'est le contre-coup de sa vitesse de déplacement pour contenir les postes 4, les petits postes 3 en NBA. Est-ce que c'est ça qui te posait question, Ben?
En partie, ouais. Ouais, t'as bien deviné. Oui, il y avait de ça. Parce qu'on avait vu l'année dernière, les Wolves, ils étaient partis sur une défense avec Finch qui était, ils avaient appelé ça high wall defense, donc ultra agressif sur le porteur de balle, sur le pick and roll. Et ce qui leur a permis de générer beaucoup de turnovers. C'était la deuxième équipe qui en générait le plus la saison dernière. Et du coup, avec notamment la défense de Beverley sur, par exemple, sur le pick and roll avec un Carl Anthony Towns, de pallier à certaines déficiences défensives. Moi, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire parce que, en lisant les interviews au début du training camp, ils commencent déjà à annoncer qu'ils vont avoir deux schémas défensifs. Un quand Gobert sera sur le terrain, un quand Gobert sera pas là. Quand Gobert sera sur le terrain, ils vont jouer un drop. Et ils ont annoncé avoir beaucoup travaillé le drop sur le début du training camp. Et ils devraient, sur le reste du temps, retrouver cette défense-là, notamment avec Towns en 5. Alors déjà, je me pose vraiment la question de comment ça peut marcher, d'avoir deux schémas défensifs selon qui est sur le terrain. Et puis aussi, j'ai hâte de voir si c'était vraiment réel ce qui s'est passé la saison dernière. Parce que quand on regarde les stats, les Wolves, c'est une équipe qui laissait beaucoup de tirs à trois points dans le corner aux équipes adverses et beaucoup de tirs dans la raquette, ce qui est statistiquement pas des bons tirs à laisser, et les équipes n'avaient pas un bon taux de réussite face à eux. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors bien évidemment, sachant que c'est Rudy Gobert, les équipes seront un peu moins tentées d'aller au cercle, mais j'ai hâte de voir cette défense. Et moi, je pense qu'aussi, pour rejoindre un peu ce qu'a dit Amine, c'est il y a eu des ajouts, mais je trouve que ça met plus de pression sur D'Angelo Russell et Anthony Edwards, qui vont faire plus parce que Beverley, par exemple, n'est plus là. On peut citer aussi Vanderbilt, Beverley, ils perdent beaucoup, et ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster à ça.
Ah bah c'est exactement ce que j'avais noté, c'est parfait. Donc évidemment, Amine, tu l'as cité, l'arrivée de Kyle Anderson, c'est plutôt bien également sur les ailes pour un joueur qui bouche les trous, un joueur intelligent, notamment en défense. Mais effectivement, moi, ce que j'avais noté, c'est la question du fameux, avec l'anglicisme, point of attack. C'est-à-dire que le problème, entre guillemets, de cette défense des Wolves, sur le papier en tout cas, c'est de défendre le porteur de balle principal, notamment s'il est sur les postes arrière. Alors, théoriquement, peut-être que Anthony Edwards, dans un certain fantasme, pourrait devenir un très bon défenseur. En tout cas, il a les outils pour le faire. Pour l'instant, après, reste à voir la mentalité. Mais après, comme tu le disais, Amine, bon, du côté du Jazz, on n'était pas non plus sur des guards qui te défendaient, qui mettaient toute leur âme pour ne pas se faire passer. On était plutôt, alors, vas-y Rudy, bouche les trous. Et ça fonctionnait tout de même. Donc, on peut estimer qu'ils seront une bonne défense. Est-ce qu'ils seront une défense élite? Moi, j'en doute, notamment par rapport à ce point-là de la défense du porteur de balle principal. Après, sur le papier, ça reste assez fort. Et puis, il y a l'autre côté du terrain. C'est vrai que là, la question, tu l'as axée sur la défense, Ben. Mais finalement, il y a aussi cette question des deux tourelles, de comment ça va s'agencer. Mais ça peut aussi bien marcher. Et Rudy Gobert est aussi une anomalie statistique à ce niveau-là. Les Jazz étaient ces dernières années toujours dans les top attaques, de par tout le travail de fond qui est effectué par Rudy, ses écrans sur porteur, plus loin de la balle, etc. Ça peut fonctionner, cette équipe des Wolves. C'est vrai qu'elle est intrigante, il y a plein de questions, mais le problème, c'est que c'est difficile d'y répondre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a pas vraiment de matière récente, en tout cas, de ce profil d'équipe, et c'est pour ça que ça les rend intrigants, on a envie de les voir.
À voir à quel point Gobert, c'est pas un phénomène, les joueurs qui défendent pas autour de lui, de repos mental à se dire, bon, je peux être un peu plus laxiste, j'ai Gobert derrière moi.
Bah ça, c'était le risque au Jazz, effectivement. On peut se poser la question. Amine, je t'ai vu acquiescer, j'imagine, sur le cas Edwards-Russell, quoi.
Ouais, moi, je suis intrigué par la saison que va faire que D'Angelo Russell. Vous en aviez parlé dans un podcast récent. Il est en contractière, en fait, et je pense que l'arrivée de Gobert est vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Son jeu, c'est pas un joueur qui mérite son contrat actuel, on va dire, sur ses qualités réelles et tout. Mais par contre, ses qualités réelles, elles sont énormément sur du pick and roll. Et avec Gobert, il va être servi en écran. Et il va pouvoir alterner son jeu aussi entre le pick and roll, pick and pop, entre Gobert et Towns. Sachant qu'il est en contractière, je pense que ça peut être le maître étalon de est-ce que les Wolves vont faire une très bonne saison ou pas. Est-ce que D'Angelo Russell va assumer? La dernière fois qu'il était en contractière, c'était à Brooklyn, et c'est là où il est allé chercher ce contrat. Donc à voir si c'est pas un joueur qui cherche le contrat, justement, et ça pourrait être très, très positif pour les Wolves.
Bon, ben, du coup, si c'est D'Angelo Russell qui place la barre des Wolves, on la place où? Parce qu'effectivement, bon, c'est quand même des changements cette intersaison, au-delà des questions qui sont posées, là, qu'on est en train de se poser. C'est une ambition affichée du côté des Wolves de progression directe et de se placer à court terme, alors pas forcément dès cette saison, mais en tout cas à relativement court terme, comme un contender sérieux pour le titre NBA. On vise quoi donc cette année-là? Tout de suite, il nous faut l'avantage du terrain, ça semble être l'objectif premier.
Ouais, je dirais ça. Pour moi, je les mets dans un. Pour moi, j'ai 7 équipes que je peux envisager d'en avoir l'avantage.
Ça commence à faire beaucoup.
Ouais, là, ça fait beaucoup. L'Ouest, c'est dur, vraiment. C'est vraiment dur, l'Ouest. Pour moi, je les vois dans une fourchette entre 3 et 7, en fait. J'ai un peu de mal parce que leur division, d'un côté, ils ont deux équipes avec le Thunder et le Jazz qui visent pas beaucoup cette année. On pourrait ajouter les Blazers, que j'ai du mal à beaucoup. On en a parlé. Je suis pas super haut sur eux, mais ils ont les Nuggets, qui est une équipe, on en parlera dans l'épisode prochainement. Donc, j'ai beaucoup de mal, mais ouais, 3-7, je pense, cette équipe-là. Ils peuvent aller chercher l'avantage du terrain.
Rapidement, Amine, avant qu'on enchaîne, je t'ai vu acquiescer, toi, c'est
même chose pour toi. Je suis d'accord avec ce range. J'ai du mal à les voir 3. Je pense que c'est un peu haut, mais 4, j'aurais dit 4-7 pour chipoter un petit peu.
Ouais, c'est ça. Après, ça reste de la saison régulière, une nouvelle fois, c'est vrai que tu l'as rappelé, Ben. Mais en saison régulière, c'est pas forcément la loi des playoffs derrière. Et ils ont quand même des joueurs aussi qui jouent, mine de rien, Minnesota. C'est quand même un avantage par rapport à certaines autres équipes qu'on pourra évoquer un peu plus tard. Rebasculons à l'Est pour la suite de ce podcast. On va parler d'une équipe, particulière aussi également dans l'écosystème NBA, dans sa manière de fonctionner. C'est le Heat de Miami, donc projeté à 45,9 victoires. Donc là, c'est très très proche, hein, encore une fois. 11e offense, 4e défense l'année dernière, très très fort défense évidemment du côté de Miami, mais pas seulement, puisque c'est Tom qui nous l'a fait remarquer, numéro 1, équipe numéro 1 de la Ligue, l'adresse à 3 points l'an dernier du côté de Miami. Est-ce qu'on va pouvoir ravoir la même chose? Est-ce que l'équilibre n'est pas un peu fragile? Je cite la question de Tom. Ben, comment tu vois ce Heat qui n'a pas vraiment, qui n'a pas énormément changé, même si on a quand même des pertes comme PJ Tucker et Markieff Morris notamment. Bon, est-ce qu'on va continuer dans cette veine-là, Ben?
Je pense que la question de Tom, elle est influencée par la saison peut-être précédente du 8, où ils étaient une équipe de milieu de tableau à 3 points. Donc sur la saison, du coup, on était en 2020-2021. Et moi, je suis pas si inquiet que ça par rapport à ça. Alors, est-ce qu'ils seront numéro 1? Je ne sais pas. Parce qu'être numéro 1 d'une catégorie statistique NBA, c'est toujours difficile. Je me référais, alors ça, on va dire que ça remonte à loin, mais la saison encore d'avant, donc la saison où le Heat est finalement allé en finale NBA, 2019-2020, ils sont deuxième à 3 points NBA. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on regarde les pourcentages, c'est une partie de l'NBA qui a plongé, alors que le Heat s'est maintenu, voire a un petit peu augmenté. Globalement, je trouve que dans leur structure offensive, parfois avec un Bam Adebayo en hub, et c'est Bam Adebayo de saison régulière, pas celui qui me frustre en playoff. Donc avec cette agressivité-là, il propose toujours un schéma offensif qui pose trop de problèmes à des défenses de saison régulière, au schéma défensif super laxiste. Ensuite, j'en parlerai avec une autre équipe de la même division, mais quand je regarde la plupart des joueurs qui ont pris les 3 points l'année dernière chez eux, Duncan Robinson est encore là, Max Strus est encore là, Tyler Hero est encore là, Kyle Lowry est encore là, Gabe Vincent est encore là. Ils perdent PJ Tucker, certes. Ils perdent en gros 150, ils perdent environ les 200 tirs à 3 points sur 3000 qu'ils ont pris. Enfin, ils perdent pas beaucoup de joueurs. J'ai confiance dans le système. Pour moi, c'est une équipe qui se maintiendra parmi les bonnes à 3 points NBA.
Ah bah, par rapport au chantier, finalement, un peu Timberwolves avec quelques remaniements, Amine, là, on n'est plus sur une équipe qui s'est... Qui a fait le choix de la continuité, comme on dit, cette saison, avec peu d'évolution. Est-ce que du coup, toi, bah, même chose, tu es plutôt confiant sur le fait qu'ils gardent leur cap, en tout cas en saison régulière, dans un premier temps?
Ouais, c'est la continuité, sauf que moi, je trouve que le départ de PJ Tucker, plus que PJ Tucker en lui-même, c'est son non-remplacement et l'absence de poste 4 dans cet effectif, dans ce roster. Le seul vrai poste 4, c'est Heywood Haismith, que je connais pas bien. Et j'imagine.
Il y a Nikola Jovic, non? Il peut jouer
4. Oui, c'est vrai. Bon. Il y a Nikola Jovic, mais bon, il vient d'être drafté. Faut voir. C'est vrai que ça peut être une surprise. Et avec le Heat, on est habitué à des surprises assez dingues, en vérité, avec Spoelstra, le développement, tout ça. Mais je trouve qu'ils sont légers au poste 4. Donc, déjà, où t'avais un très bon joueur la saison dernière en PJ Tucker au poste 4, tu le remplaces pas. J'imagine qu'ils vont peut-être tenter des line-up où ils seront très petits avec du Callum Martin, voire même du Butler en 4. Et moi, c'est le seul truc qui me gêne un petit peu. Je trouve qu'ils jouent de la continuité. On aura peut-être un meilleur Kyle Lowry aussi cette année. C'est pas sûr, mais en tout cas, si on a un meilleur Kyle Lowry, ça permet d'avoir une évolution tout de même importante avec un joueur qui a montré ces dernières années vraiment au niveau leadership, au niveau de ce qu'il t'a apporté sur le terrain. C'est quand même très important. Donc, il y a ce problème au poste 4, mais dans l'ensemble, avec une organisation qui fonctionne, qui chaque année arrive toujours à se renouveler, à fonctionner avec Spoelstra. La seule autre question que je me pose, c'est est-ce que avec l'absence de Real poste 4, est-ce qu'ils vont pas essayer de relancer justement Duncan Robinson au poste 3 et peut-être faire monter Jimmy au poste 4 avec un vrai small ball entre guillemets, puisque Bam n'est pas gigantesque non plus. Et donc c'est la question que je me pose. Moi je les vois se maintenir dans les hauteurs de la conférence Est. Faut juste voir comment ça clique avec l'effectif.
Alors, je suis comme vous, j'avais noté à peu près la même chose, je suis assez confiant, et également à cette question poste 4, j'avais noté cette problématique là sur laquelle tu viens de terminer, Amine. C'est-à-dire que bon, décaler Jimmy Butler au poste 4, ça a l'air d'être la première solution qui vient en tête. Après, on en a assez parlé après sa performance en play-off qu'il a fait remonter en flèche dans le DH20. Jimmy Butler en saison régulière, on est quand même sur la pédale de frein. Hein. C'est même pas qu'on lâche l'accélérateur, c'est qu'on est clairement sur la pédale de frein. Donc, lui demander de prendre le rôle d'un PJ Tucker qui avait aussi un profil particulier, c'est pas du tout celui de Jimmy Butler sur un terrain de basket. Ça demanderait qu'il se donne un peu plus. Donc, ça pose une première question. Et la question de Duncan Robinson que j'avais noté aussi, parce que Duncan Robinson, qui est toujours un artilleur fou, mais qui ne peut pas vraiment défendre en playoff, on l'a vu. Il a vu son temps de jeu plongé, il a pratiquement plus utilisé au bout d'un moment. Quelle influence sur sa confiance à lui, qui est donc quand même le point central, on va dire, du jeu off-ball du côté du 8. Voilà, c'est une question que je me suis noté comme ça après en saison régulière. C'est parfait pour un joueur comme Duncan Robinson. Je pense que voilà, avec cette problématique, il va retrouver des minutes, il va courir de partout, mettre des trois points qui n'existent pas, frustré notamment notre cher Alan Guillou qu'on salue et qui ne comprend pas quand le Heat prend feu à ce point-là. Donc effectivement, on est peu inquiet. Je ne sais pas si vous voulez ajouter beaucoup de choses. Le Heat finalement qui est assez stable dans une NBA qui bouge avec des questions d'autre côté, quelques équipes quand même qui sont solides, qui tentent de se renforcer. Un choix de la prudence, on va dire. Ben, je pense qu'on peut conclure comme ça.
Moi, il y a des prévus que je comprends pas, parce qu'on va y revenir, parce qu'on a une dernière équipe de la division South East. Il y a beaucoup de personnes qui mettent le Heat au play-in, notamment John Onigers de The Athletic. Alors, je suis pas, j'ai pas fait HEC ou Polytechnique, mais 6 équipes directement en play-off avec aucune de la South East, j'ai un peu de mal à trouver dans quel monde c'est possible. Donc en fait, il faut en trouver une. Et moi, alors ça ne surprendra pas les auditeurs du podcast, je suis plus enclin à donner cette place au Heat qu'aux Hawks. Voilà, bêtement.
Voilà. On en parlera d'ici une autre petite équipe. Si tu veux, je pense que tu seras bien inspiré à ce moment-là. On va continuer notre chemin, parce que c'est vrai que le Heat est assez stable. Et finalement, le Heat, on va finir par avoir un résultat par rapport aux performances des autres équipes autour. J'ai l'impression que c'est un peu ça la finalité. Mm-hmm. Donc, rebasculons d'abord à l'Ouest avant de revenir dans la division du Heat avec l'équipe surprise de la saison dernière. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui a fini une deuxième à l'Ouest. Ce sont les Grizzlies et Memphis Grizzlies, donc, qui sont projetés un peu plus bas, hein, forcément, dans ce classement-là. 46,1 victoires. Ils étaient à 56 victoires pour 26 défaites. La saison dernière, quatrième attaque, cinquième défense, donc une très très belle saison régulière. Amine, tu nous as dit en off que tu t'es pas mal posé de questions sur ces Grizzlies, avec des pertes de Melton, de Kyle Anderson, qu'on a évoqué d'ailleurs un petit peu plus tôt. Des pertes pas vraiment compensées, et du coup, quel impact ça aura selon toi ?
Je suis inquiet pour les Grizzlies, parce que c'est même pas qu'elles sont pas vraiment compensées, c'est qu'elles sont pas compensées.
Pas du tout.
Oui. C'est ça. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que on perd deux joueurs avec respectivement Melton 23 minutes de temps de jeu en moyenne la saison dernière et Kyle Anderson 22 minutes de temps de jeu l'année dernière, qui t'apportaient énormément. Deux gros two-way players avec c'est parmi les meilleurs playmakers défensifs tous les deux, et ils t'apportaient, ils étaient très polyvalents en attaque. Que ce soit sur du jeu de possession, que ce soit du jeu off-ball, ils étaient intéressants, les deux. À ça, tu ne les as pas remplacés du tout. Donc, tu comptes, j'imagine, sur Zaire Williams, qui était rookie l'année dernière, qui doit donc élever son niveau pour prendre un petit peu la place de Kyle Anderson. Et tu dois miser, je ne sais pas, sur Conchar, sur un rookie comme Kennedy Chandler, par exemple, pour prendre des minutes de Melton. Moi, ça m'inquiète, parce qu'on perd deux éléments essentiels. Ok, c'est pas des joueurs starting five forcément chez les Grizzlies l'année dernière, mais ils étaient très importants. L'année dernière, une des grandes forces des Grizzlies, c'est que le 5 titulaire et le banc c'était très difficile de jouer contre l'un et contre l'autre. Ça marchait très très bien et c'est ce qui les a rendus très forts. C'est d'ailleurs pour ça que quand Ja Morant a raté une vingtaine de matchs l'année dernière, ils ont surperformé, ils ont continué à gagner des matchs sans lui. C'est parce qu'ils avaient un banc hyper profond. Là, cette année, en fait, ils sont séparés de joueurs pour pouvoir payer Tyus Jones et énormément drafter. On sait que les Grizzlies, c'est vraiment NBA Draft Twitter. Ils ont été chercher des joueurs que je suis un petit peu la draft, que moi, personnellement, pour le coup, je ne connaissais pas, Rodi, Laravia. Maintenant, ils ont toujours bien drafté. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne les connaissait pas que ce n'est pas des bons joueurs et qu'ils ne vont pas être intéressants tout de suite, en plus. Mais moi, je suis plutôt inquiet. Vraiment, ces deux départs, moi, ils m'embêtent. En fait, j'ai du mal. Je pense qu'ils seront toujours forts. J'ai juste du mal à imaginer qu'ils soient aussi forts que l'année dernière.
Je vais tordre la question, du coup, pour toi, Ben. Est-ce que finalement, donc, tout ce que vient d'illustrer Amine, c'est-à-dire que comment dire, le collectif global sur l'effectif, la profondeur de l'effectif des Grizzlies devenant alors, plus faible, je ne sais pas, mais en tout cas ne se renforçant pas, est-ce que du coup, finalement, cette saison, c'est pas allez, déjà, prouve-nous ta place dans le DH20, finalement ?
Un peu. Je pense que c'est aussi un modèle qu'on a du mal à comprendre parce qu'il prône un peu la patience. C'est-à-dire que pour une équipe qui a fait une saison régulière très très forte et de bons playoffs aussi avant la blessure de Ja Morant, on est un peu habitué dans ce genre de cas que les équipes ne montrent plus de patience et appui direct. Et c'est vrai que du coup, là, on peut se dire il y a ces deux pertes-là, il y a la question au poste 4, parce que Jaren Jackson, je rappelle qu'il va rater le début de la saison, donc qu'est-ce que tu fais au poste 4? Donc moi, j'ai surtout l'impression qu'ils sont dans un... Comme l'a dit Amine, il y a vraiment cette volonté de beaucoup drafter. Tu sais qu'à Memphis, tu ne ramèneras pas de grands joueurs, donc ils sont... Je pense qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas encore le fameux moment dont on parle très souvent, celui où il faut appuyer sur l'accélérateur. Ils ne l'ont pas encore fait. Donc, ils ne sont pas encore, je pense, dans la rétention de joueurs, de role-players importants pour avoir des ambitions, ce que aurait pu être un Kyle Anderson. Parce que Anderson qui part dans une équipe qui affiche des ambitions, ce n'est pas un hasard non plus, en fait. C'est même criant sur sa valeur. Donc, je pense qu'ils sont encore dans cette période-là. À voir, moi, je trouve ça intéressant. Et oui, il y a un peu de « est-ce que Ja Morant ?» parce que c'est un joueur que, si vous avez écouté le DH20, si c'est pas le cas, foncez, c'est un peu long, on sait. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup de mal à classer cette année. Donc, si ça peut me donner des éléments de réponse, c'est bienvenu, quoi.
Ouais, justement, moi, ce que je m'étais noté, c'est intéressant, c'est qu'ils en font un peu... c'est un peu l'antithèse des Hawks-Knicks d'il y a une ou deux saisons. Ce que proposent les Grizzlies, c'est malgré... une très très bonne saison, tu finis quand même deuxième de ta conférence, tu pourrais estimer ça y est, tu as les pièces centrales de ton prochain effectif contender en NBA, tu veux garder tout le monde, tu payes un peu cher, ce qu'ont fait aussi les Blazers il y a quelques années. Finalement tu restes assez prudent, je pense que eux aussi le voient qu'effectivement, donc Ja Morant est certain, sera une star en NBA, peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt justement, qu'il y a encore des questions auxquelles ils ont envie de répondre. Ils savent que Desmond Bane a priori devrait être aussi la deuxième pièce de ce fameux effectif qui devrait les amener un peu plus tard en tant que contender, mais sans paniquer, je pense qu'ils se sont dit, par rapport à leur temporalité à eux et celle des autres aussi en NBA, parce qu'on l'évoquait rapidement tout à l'heure et on va faire que avancer là-dessus au fur et à mesure des previews, à l'ouest c'est la guerre des tranchées en haut à l'ouest cette saison. Je pense qu'en ayant conscience justement voilà, de la temporalité des autres équipes NBA, ils prônent, comme tu l'as dit Ben, la patience, en tout cas la raison sur quand sera leur fenêtre de titre en NBA. On en parle souvent de cette fameuse fenêtre, et donc de quand mettre le coup d'accélération. Et ils estiment, puisque Ja Morant et Desmond Bane sont encore des jeunes joueurs, que tu auras le temps de les garder en tant que pièce centrale un tout petit peu plus tard, et que c'est peut-être pas maintenant qu'il faut all-in, pour prendre une analogie poker, effectivement, avec voilà, les questions Jaren Jackson qui est blessé, tu as des blessures qui restent ici et là. Voilà, tu as des joueurs de valeur, tu peux les envoyer. Merci Kyle Anderson pour les travaux. Voilà, je trouve que pour moi c'est très raisonnable ce que font les Grizzlies. Alors, peut-être que ça va être une saison décevante pour certains fans qui se verraient un peu beaux après cette saison dernière et qui voudraient justement, de toute façon, on a toujours envie que notre équipe gagne le plus de matchs possible et aille encore plus loin que la saison d'avant. Peut-être que ce sera moins bien, mais j'ai l'impression de mon côté en tout cas que c'est un choix de raison du côté des Grizzlies.
Je vous pose une question, les gars, ils auraient pu faire quoi en fait? Parce que si jamais ils décident d'adresser notamment ce poste 4 ou de remplacer ces joueurs-là avec une autre carte que celle de la progression interne, ça aurait voulu dire soit investir financièrement, ce qui n'a aucun sens pour une équipe qui va devoir re-signer beaucoup de jeunes joueurs, ou échanger certains de ces jeunes joueurs. Donc pour moi, ça a pas trop de sens. Donc c'est une équipe, et malgré tout cela, moi je les mets dans mon groupe de 7 équipes qui visent davantage du terrain, en fait. Donc ils perdent pas trop dans l'équation, je trouve.
Moi, j'étais inquiet et vous m'avez convaincu tous les deux, hein, parce que j'avais pas vu le truc dans ce sens-là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté raisonnable. En fait, d'une certaine manière, considérer que la saison dernière exceptionnelle était plus du domaine de l'anomalie et ne pas faire n'importe quoi tout de suite pour aller griller les étapes et peut-être faire des bêtises. Moi, je suis déçu pour eux du départ de Melton et Anderson, mais quelque part, comme vous l'avez dit, pour moi, ça joue au pire. Le play-in, quoi. Au pire, la 7e place. Je les vois pas en dessous. Je pense qu'ils ont un plafond quand même assez élevé. Donc finalement, c'est effectivement, ça ressemble à une gestion bon père de famille en quelque sorte. Donc c'est pas, au moins, c'est pas une gestion catastrophique.
Ça va, pour essayer de répondre à ta question, Ben, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Ben, pas grand-chose. On revient souvent aussi à cette question de petit gros marché. Quand t'es Memphis, tu vas pas attirer de gros free agents. Il y avait pas en plus d'énormes free agents à ramener. Bon, alors il y avait les cas des joueurs qui voulaient partir de chez eux. Mais est-ce que tu avais matière à aller balancer toute ta famille pour Kevin Durant ou que sais-je cet été? Ça aurait pas été justement une gestion de bon père de famille. Amine, ça aurait été plutôt la date aurait toqué à la porte. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y avait pas beaucoup mieux à faire dans la situation. Des Grizzlies, une nouvelle fois, il faut toujours prendre en compte le contexte, leur situation à eux, leur temporalité, celle du reste des équipes NBA, et puis l'état du marché des Grizzlies, qui en plus, tu peux considérer que Ja est en pleine progression, en pleine explosion, à la fois sur le terrain, mais aussi médiatiquement en NBA. D'ici quelques free agency, tu pourrais te retrouver avec des joueurs qui demandent à venir jouer avec Ja Morant. C'est une possibilité aussi. Tu as aussi toujours Jaren Jackson, qui est aussi un joueur très intéressant, Desmond Bane. Bref, une base de jeunes joueurs qui ne sont pas encore à leur plein, à leur zénith, à la fois basket et médiatiquement. Donc peut-être que tu décides que la fenêtre sera un peu plus tard, et je pense que ça a l'air d'être le bon choix. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai actuellement. Et je sais pas si vous voulez faire d'autres constats sur les Grizzlies. Effectivement, juste... a priori, ce qu'on peut se dire, vas-y Amine, je t'en prie, mais genre a priori, les résultats, l'ambition est un peu moins élevée que ce qu'on a pu voir la saison dernière.
Juste, en fait, le truc vraiment positif avec leur excellente draft à répétition, c'est que si ça se développe vraiment bien, en fait, ils ont déjà un top 3 potentiel. Un vrai top 3 avec une option numéro 1, une option numéro 2, ton défenseur peut-être générationnel à l'intérieur. Donc, en fait, c'est vrai que faut prendre son temps, finalement.
C'est vrai qu'en plus, oui, ils ont les bons joueurs au bon poste, entre guillemets, dans la même temporalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Les voyant globalement, même si, comme tu l'as dit, Amine, une problématique, si on parle que résultat de cette saison qui va arriver, on pourrait être inquiet pour les Grizzlies. Mais si on se place sur le temps, j'allais dire le temps long, peut-être pas, mais sur un moyen terme en tout cas, il n'y a pas de raison de paniquer, à mon avis, du côté des Grizzlies, surtout après. Finalement, une gestion plutôt belle de la transition par rapport au Grit and Grind juste avant. C'est allé assez vite du côté des Grizzlies. Je pense qu'on peut être satisfait. À ton avis, Ben, comment se sent Tom?
Alors Tom, après cette séquence, va dire « Bien les gars, mais… » Voilà.
Effectivement, c'est du Tom dans le texte. On aura l'occasion de vérifier. On vous confirmera ça, tout ça, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller suivre le compte Dunk Hebdo. Je fais ça comme un influenceur maintenant. Et on va continuer nos previews et repasser de l'autre côté dans la fameuse division chère à Ben, et parler de… Une projection qui nous pose question, quand on l'a vu, en tout cas dans cette projection ESPN, puisque oui, on continue de grimper dans les places de cette projection. Et ce sont les Hawks qu'on retrouve, donc au-dessus des Grizzlies, du Heat, des Wolves, les Atlanta Hawks. Donc projetés à 46,2 victoires, vous connaissez les Hawks l'année dernière. Deuxième attaque, 26e défense, le décor est posé. Et les Hawks qui sont peut-être l'équipe qui a fait le deuxième trade, qui a fait le plus parler. Alors, on va se poser la question de son impact sur le terrain, évidemment. Mais en tout cas, un trade assez surprenant pour Dejounte Murray, qui a rejoint les Atlanta Hawks. Et donc, la première question, on rajoute Dejounte Murray, qui était l'homme à tout faire, le plus gros usage aux Spurs, qui lui a valu une sélection All-Star. Bon, après, évidemment, blessure, etc. Mais en tout cas, une sélection All-Star, ça y est, c'est fait, c'est dans le palmarès. On rajoute Dejounte Murray à côté de Trae Young, qui est un des fameux soleils qu'on a souvent évoqué, Ben, dans l'héliocentrisme en NBA. Est-ce que ça va perturber cette attaque? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que Trae Young suffit pour garder une top 5 attaque? Encore une fois, Ben, je pose la question, tout simplement.
Alors, cette année, je pense pas. Alors, cette question, je vais répondre par quelque chose qui a l'air pas logique, dit comme ça, s'ils restent top 5 attaque, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que je pense qu'ils doivent apprendre à diversifier leur attaque, en fait. C'est ça, ce qui... Et si tu diversifies, tu vas avoir des problèmes, en tout cas des difficultés sur les débuts. Diversifier leur attaque, c'est quoi? C'est avec un Dejounte Murray, donner un peu plus parfois la balle à Dejounte Murray. Je rappelle la stat qu'on avait donnée dans le premier épisode des previews. Quatrième joueur qui a touché le plus de ballons la saison dernière, qui en touchait le plus par match. Et vraisemblablement... Alors, la pré-saison vaut ce qu'elle vaut. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Du coup, quand on regarde les matchs de pré-saison, où on reste, en fait, sur du triangle héliocentré avec Dejounte Murray qui a quelques rares ballons. S'ils veulent rester une bonne attaque, il faudrait qu'ils réussissent à conserver leur adresse à 3 points. C'est une équipe qui a très bien shooté à 3 points l'année dernière. Et j'ai un petit problème vis-à-vis de ça. C'est que quand on regarde les 7 joueurs qui ont pris le plus de tirs à 3 points chez eux, il y en a 5 qui sont partis. Gorgui Dieng, c'était un faible volume. Delon Wright n'est plus là. Le backup tant critiqué, mais en tout cas, il est plus là. Ensuite, on avait Trae Young et DeAndre Hunter, qui sont eux encore là. Kevin Werther n'est plus là. Danilo Gallinari, critiqué aussi, mais sur une saison régulière en backup, offensivement, ça a fait très très mal à certaines équipes. Et on avait Cam Reddish, qui avait fait seulement une partie de la saison. C'est une équipe qui avait maximisé au possible ce que faisait un triangle sur la saison régulière, et je doute qu'ils en arrivent là. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que quand tu as fait ce trade dont tu as parlé, Adrien, c'est pour t'améliorer dans des moments de play-off où triangle n'est plus sur le terrain, où tu dois diversifier ton attaque, et c'est ce qu'ils doivent faire sur la saison régulière. Mon problème, c'est qu'ils ne le font pas sur la pré-saison, que McMillan, c'est un coach qui a, je pense, le siège beaucoup plus chaud qu'on essaye de nous le faire croire. Ce front office-là n'est pas patient. Si McMillan ne fait pas de bonnes choses, il pourrait être viré. Et je répète mon proverbe, Trae Young, c'est une assurance vie pour un coach. Tu lui donnes la balle, tu vises play-in et tu gardes ton poste. Donc, ils vont pas le rester, je pense, mais j'ai des craintes.
Je vais une nouvelle fois, pour changer, hein, tordre la question un petit peu, Amine. Du coup, comment tu le vois, l'ambition de ces Hawks? Comme l'a dit Ben, c'est un front office qui semble plutôt impatient. Justement, on vient de parler de la raison du côté des Grizzlies. Les Hawks, ils ont totalement appuyé sur l'accélérateur dès qu'ils ont vu qu'ils ont fait une bonne saison. Donc la question, avec cet ajout Dejounte, qu'est-ce qu'ils vont viser? Est-ce qu'ils vont viser l'assurance, entre guillemets, c'est-à-dire faire une bonne saison régulière une nouvelle fois, ce qui est assez facile, entre guillemets, à faire avec Trae Young? Ça va te suffire à gagner assez de matchs, à te qualifier en play-off. Et puis voilà, tu as sauvé ta place, tu es bien content. Ou est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'il n'y a pas en plus une dichotomie entre ce que veut le front office et ce que veut le coach? Il faut commencer à compenser ces faiblesses qu'on voit à chaque play-off. Tous les passages sans Trae Young, tu l'as très bien dit Ben, les passages sans Trae Young, l'équipe est perdue, il n'y a plus d'attaque, on ne sait plus quoi faire. Et Dejounte est censé un peu compenser tout ça. Amine, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Moi, je pense que vous avez bien résumé avec un seul mot, c'est impatience. C'est ce qui sort le plus souvent de ces Hawks, c'est que moi, j'ai l'impression que le front office, pour eux, c'est l'avantage du terrain cette année. Moi, je ne suis pas convaincu que cette équipe joue l'avantage du terrain. Perso, je les place plus, on va dire, play-in, peut-être à la 6e place, qui évite le play-in au mieux, mais je les vois plus dans le range play-in. Effectivement, ils ont un plancher, notamment en attaque. Quand tu as Trae Young dans ton équipe, de toute manière, tu seras bon en attaque et ça devrait marcher. Pour moi, l'ajout des gens de Dejounte, comme pas seulement le joueur qu'il est, mais la façon dont il a été présenté, les tours de draft qu'ils ont envoyés, c'est vraiment, on a l'impression que le front office veut aller, on repart sur l'année dernière, on s'est trompé, du coup, on va essayer de pas se tromper cette année. Je suis pas sûr que ce soit le cas. J'aime bien Dejounte Murray, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de recruter. Ils ont recruté au prix de Dejounte Murray de l'année dernière, le joueur Dejounte Murray de l'année d'avant, en fait. C'est-à-dire un mec beaucoup moins responsabilisé. Et je ne sais pas si ça en vaut la peine d'avoir Dejounte Murray à ce prix-là, si c'est pour moi le responsabiliser. On sait que ce n'est pas un joueur de catch. On a vu un petit peu la pré-saison, on voit qu'on veut essayer d'installer Dejounte Murray en catch. Trae Young en off-ball, ça commence déjà à se voir que ça va être compliqué. C'est vraiment pas Stephen Curry sur ce type de jeu. Donc moi, je suis pas négatif sur les Hawks, mais je pense qu'ils ont des ambitions trop élevées par rapport à ce qu'ils ont. Maintenant, il y a juste une dernière question. Est-ce que ça ne dépend pas finalement du niveau que va avoir Clint Capela cette année, le niveau des Hawks? Parce qu'on l'a vu, l'année où Clint Capela fait une saison au top, c'était la meilleure saison des Hawks. Et c'est ça la vraie question. Il t'apporte quelque chose au niveau de la défense qui peut élever vraiment le plancher de ces Hawks-là. L'année dernière, il n'est pas très bon et ça a beaucoup moins marché.
Parole à l'expert du terrain des Hawks, Ben. On sait que tu les as beaucoup regardés. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est Clint Capella, le facteur X, comme on aime souvent dire, de la réussite de la saison des Hawks? Ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle dit comme ça, à froid en tout cas.
Parce que c'est un joueur qui a raté beaucoup de matchs en fait dernièrement. Effectivement, Capella, il est arrivé, si je ne me trompe pas, il est arrivé l'année dernière au training camp blessé et il a eu des problèmes sur le début de la saison. Effectivement, et c'est là aussi un des soucis des Hawks. C'est pas un souci des Hawks, mais sachant que tu as beaucoup envoyé de tours de draft, maintenant un des joueurs les plus importants de ton effectif, et c'était une des autres questions que j'avais mis, ça devient Onyeka Okongwu en fait, parce que c'est potentiellement dans l'effectif rêvé des Hawks, c'est lui le poste 5. En fait, parce que il a cette capacité à être plus dans la défense sur du switch qu'un Capella, et il y a cet espoir qui développe un tir. Je suis d'accord avec Amine parce que la protection du cercle, elle sera vitale pour eux. Mais pour moi, en fait, les Hawks, dans la manière où ils ont abordé la saison, c'est là où je vous rejoins globalement dans ce que vous avez dit. Quand tu investis sur des gens téméraires, c'est aussi pour arriver pratiquement dans le moitié de tableau défensivement, en fait. Quand tu fais cet investissement-là, c'est que tu as ces espoirs-là. Et même un Clint Capella qui avait été assez élite, je sais pas s'ils ont ça en réserve, en fait, actuellement, les Hawks. Donc, je suis assez pessimiste pour une équipe qui, méfions-nous, ça fait 2 ans de suite qu'ils nous font le coup, ils partent très mal et ils finissent très fort. Mais j'ai hâte de voir si, encore une fois, si McMillan, quand ça part mal, va pas retrouver, va pas tout simplement jouer, bon bah allez, Trae Young, prend la balle, usage à 50, et puis on sera top 5 attaque, mais on n'aura pas de vue sur la post-season. Quoi.
Du coup, l'autre question pour parler un peu de cette saison qui arrive du côté des Hawks, c'est que se passe-t-il si on n'a pas au niveau des attentes, justement tu parlais de l'impatience, Amine, enfin c'est un mot qui est revenu là tout le long depuis qu'on parle des Hawks, l'impatience du front office. L'autre question, et on en parlait également un petit peu avant de commencer l'enregistrement entre nous, c'est d'un autre joueur qui était le deuxième, le lieutenant de Trae Young, dans l'esprit en tout cas de cette nouvelle construction du côté d'Atlanta, c'était John Collins. John Collins au poste 4, qui est un joueur intéressant, même s'il a certaines limites. On n'a parfois pas été tendre avec John Collins, peut-être un peu dur d'ailleurs du côté de Dunk Hebdo. Et John Collins, il peut attirer aussi le regard de certaines autres équipes. Donc je vais poser une question, c'est un peu la question mauvais scénario. Amine, si ça se passe mal, est-ce que John Collins reste à Atlanta avec tout ce qu'on vient de dire sur le all-in des gens de Témoret?
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas John Collins qui va pas carrément demander son trade? On sait que c'est pas passé loin à plusieurs reprises. C'est un joueur qui a vraiment, non seulement qui avait des qualités de base, on connaissait ses défauts, mais qui a su progresser sur ses défauts jusqu'à maintenant. C'est pas un énorme défenseur, mais il fait le job maintenant. Contrairement à une certaine époque où on était vraiment inquiet sur sa défense. Il a développé son shoot à 3 points. Aujourd'hui, c'est un mec que tu respectes derrière la ligne. Donc, moi, je me demande déjà si, un, lui, au bout d'un moment, comme on le disait en off, à force d'avoir 4-5 tirs par match, il ne va pas demander lui-même son trade. Et puis, est-ce que ça ne fait pas sens pour Atlanta qu'il pourra en récupérer quelque chose? Parce que c'est un joueur qui pourrait faire sens dans beaucoup d'équipes, en vérité, John Collins. On ne parle pas de contrat ou quoi que ce soit, mais le joueur en lui-même, c'est un joueur intéressant. Très bon en attaque et devenu correct en défense. Donc, moi, je pense que, en tout cas, s'il y a un trade des Hawks avant la deadline, ça sera John Collins.
Mais tiens, prenons des paris. Je te lance dans la fosse au lion, Ben. Est-ce qu'il sera aux Hawks après la trade deadline? Voilà, c'est la pré-saison. C'est le moment de noter. Comme ça, on pourra se faire tomber dessus.
Je pense qu'il restera parce que je pense qu'ils ont resté. Ils ont peut-être raté leur fenêtre de tir avec John Collins, en fait. C'est plus le bon moment pour le trader parce que ça aurait pu être un joueur qui soit ajouté dans un trade à 3, etc. Je pense qu'il aurait beaucoup de sens dans une équipe qui a peut-être pas, qui a pas le niveau d'ambition des Hawks à l'heure actuelle, mais peut-être un cran en dessous. Et le truc, c'est que ces équipes-là, elles auront pas de pièces qui vont intéresser les Hawks. Parce qu'en fait, quand on parle de trader John Collins, moi, à chaque fois que je pense à un trade de John Collins, je me dis, mais pourquoi, en fait? Parce que, ils ont déjà, bon, alors c'est, John Collins, c'est pas contre une superstar, bien évidemment. Ils ont le deuxième porteur de balle, ils ont investi sur des gens de Témoré. Ils ont la protection de cercle, ils ont Capella et ils ont le potentiel au Congo. Ils ont, DeAndre Hunter dans le 3&D potentiel. Alors oui, peut-être ajouter d'autres ailiers. Pour moi, on est trop dans une logique de maximisation, parfois, et de fit du côté des Hawks. Gardons les meilleurs joueurs. Donc, je pense qu'ils devraient rester, mais j'ai un peu peur. depuis qu'ils ont des nouveaux proprios, les Hawks, ils veulent aller vite et ils veulent gagner beaucoup. Donc, je suis impatient de voir et de constater peut-être où se situe leur niveau d'impatience, quoi.
Je vais partager cet avis du fait qu'il va rester, mais je vais prendre l'autre côté, disons, du trade. C'est, j'ai pas l'impression que John Collins, malgré les qualités, tu l'as dit, Amine, du joueur, ce soit le profil que tu vas aller chercher à la trade deadline. Quand t'es un contender, c'est pas vraiment ce type de joueur où tu te dis, hey, il me manque ça. Si te manque ça, t'es déjà pas un contender. Donc du coup, c'est pas vraiment le genre d'équipe. Et donc tu l'as bien dit, Ben, c'est plutôt le joueur que tu glisses dans un trade à 3 ou dans des équipes qui sont en retooling ou alors si t'as les Clippers qui veulent encore continuer à accumuler des ailiers ou les Raptors, hein, par exemple, dont on va parler juste après. Donc de part aussi également son profil, John Collins, je vois pas. Enfin, ça m'a pas l'air d'être le type de joueur que tu vas voir sortir, en tout cas être échangé. Au milieu d'une saison NBA. Bon, après, il reste aussi quelques semaines. On sait que des fois, en début de saison, il peut se passer des choses. Mais a priori, pas pour des joueurs de ce calibre-là et des contrats aussi de ce niveau-là. Puisque tu l'as dit, Amine, pour l'instant, on a beaucoup parlé du joueur de basket. Mais aussi, pour trader John Collins, il faut aligner un peu d'argent, quoi.
Vous rendez compte que de toutes les previews, actuellement, c'est des Hawks dont on a le plus parlé. Je me sens un peu responsable de ça, mais je m'excuse.
Mais moi, tu n'es pas le seul responsable. Je pense que leur trade qui a surpris beaucoup de monde, on l'a beaucoup dit, Déjanté, qui a été payé assez cher, et tu l'as bien illustré, Amine, pour un Déjanté qui fait une grosse saison, mais pour le remettre dans un rôle qui n'était pas celui de cette saison-là, mais de la saison encore précédente. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions avec les Wolves. C'est ceux qui ont changé un petit peu l'organisation, ou en tout cas, théoriquement, devaient changer l'organisation de leur équipe. Donc forcément, ça nous fait discuter longuement. Eh bien, écoute, tu l'as bien dit, passons à la dernière équipe de cet épisode 4, et je l'ai évoqué, le projet 6ix9ine, comme l'a appelé Tom dans la question. Mais avant ça, je vais les présenter. On parle des Raptors, les Raptors de notre cher Gabin. Donc, les Toronto Raptors, équipe stable, j'ai envie de dire, projetée à 47,4 victoires, qui était 16e attaque, 10e défense la saison dernière. Un projet tout en longueur. Voilà, la question est simple et posée par Tom. Je sais plus où j'en suis dans les prises de parole, donc je vais te relancer, Amine. On va faire l'ordre alphabétique. Jusqu'où il va ce projet? Je vais rajouter une petite nuance. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de talent dans le projet des Toronto Raptors?
C'est exactement le terme que je voulais employer. En fait, les termes plancher et plafond sont super intéressants pour Toronto, parce que le plancher, il est haut, en fait. J'ai du mal à les imaginer hors des playoffs. Pour moi, cette équipe qui n'a pas de méga star, Pascal Siakam, on va dire, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est un très très bon joueur. Il l'a montré l'année dernière, mais c'est pas une méga star. Et pourtant, quand tu les vois au début de l'année, à force, avec Nick Nurse qui coach hyper bien cette équipe, avec tous les role players, tous les gars qui quasiment tout le personnel joue aussi bien en attaque qu'en défense, tu vois que t'as un plancher qui t'amène en playoff. Seulement, le plafond, moi, je sais pas. Cette équipe telle qu'elle est construite aujourd'hui, je ne vois pas un plafond qui va au-delà, on va dire, dans une très bonne année, au-delà des demi-finales de conférence après la saison régulière. C'est avec tous ces 6ix9ine qui entourent Fred VanVleet, on a des problèmes récurrents sur le playmaking et sur la protection de cercle. Alors j'imagine qu'ils ont beaucoup d'espoir en Achiuwa, qui a montré par flash des choses très intéressantes, qui lui aussi fait partie de cette armée de 6ix9ine, mais qui, on va dire, un profil un peu plus à la Adebayo. On l'imagine peut-être protéger le cercle efficacement et switcher. On rêve un peu le Achiuwa, le nouvel Adebayo. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont un plancher haut et un plafond bas. Pour moi, c'est ce qui définit cette équipe. Ça fait entre 5 et 8 en saison régulière, et ça fait au mieux demi-finale de conf. Maintenant, la dernière question, c'est est-ce que c'est pas Scotty Barnes l'élément qui doit faire élever le plancher de cette équipe en prenant un peu au niveau de la création, notamment les choses en main?
Ouais, les questions sont posées. Ben, je te redonne la parole tout simplement. Je transmets le témoin. Voilà, les Raptors, toujours le même constat, c'est-à-dire effectivement très solide équipe, en plus avec des joueurs, je sais que tu apprécies particulièrement. Il y a aussi des chouchous du NBA Twitter, comme disait Amine en citant Scotty Barnes. Mais toujours cette question, enfin, c'est difficile d'imaginer les Raptors. Alors oui, on parle saison régulière là, et a priori ça va bien se passer. Une fois arrivé en playoff, c'est rarement l'équipe qui aura le meilleur joueur sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va avec ce projet-là?
Je rejoins beaucoup Amine sur les limites du projet, en fait, et les limites de cette équipe-là, qui était 25e sur demi-terrain la saison dernière, et ça veut tout dire. notamment leur attaque, ils l'ont beaucoup basé la saison dernière sur récupérer des ballons, jouer vite en transition, sur en fait essayer de se créer des paniers faciles pour les équipes qui manquent de playmaking. C'est quelque chose dont on avait parlé avec San Antonio dans la première partie. Bon, là, on est sur San Antonio, on était à un niveau beaucoup plus bas. Mais moi, je squeera ce projet 6-9. Bah, je vais rejoindre Amine dans le sens où je pense qu'il y a une attente au niveau de la pro, de niveau de Scotty Barnes et de sa capacité à devenir un meilleur playmaker. Mais pour moi, c'est compliqué de demander ça à un deuxième année qui a pas été drafté sur cette capacité-là de devenir un meilleur porteur de balle. Il y a très peu d'alternatives à ce niveau-là. Fred Van Vliet, c'est un joueur, je sais qu'il a apprécié. Moi, j'ai toujours eu du mal à le voir en tant que meneur titulaire vu le peu qu'il apporte en playmaking. Mais je le comprends dans le projet de Toronto. Donc moi, pour moi, c'est une équipe qui pourrait, sachant que je trouve que dans cette projection-là, on se base beaucoup sur leur deuxième partie de saison, où ils font une deuxième bonne partie de saison, Siakam retrouve son vrai niveau, etc. Mais on le dit souvent, notamment avec Tom ici, il faut se méfier des deuxièmes parties de saison, c'est pas un bon indicateur historiquement. Donc, j'ai tendance à dire que ce projet 6-9-là, il pourrait aller potentiellement jusqu'à la trade deadline. Et que, je sais pas si on l'inclut dans le projet 6-9, mais Gary Trent ou un OG Anunoby pourraient bouger à ce moment-là.
Un Gary Trent qui a quand même été récupéré l'année dernière et qui est un des mecs qui prend le plus feu en NBA, qui est quand même assez, voilà, on est assez, comment dire, on a un constat très froid sur les Raptors, on les vend pas très bien, j'ai l'impression, sur cette preview.
Mais c'est quand en même... tu vois, c'est une équipe, comme l'a dit Amine, moi je les vois, je vois pas un monde où ils sont hors play-in, mais j'ai du mal à les voir même hors play-in, mais dans l'autre sens, tu vois, c'est-à-dire au-dessus du play-in.
C'est-à-dire que le plancher et le plafond, pour reprendre les termes consacrés, sont très très proches. C'est-à-dire que c'est pas très haut de plafond, enfin, pas que c'est pas très haut, mais c'est comme le plancher est très très haut également, enfin, il est assez haut, bah, du coup, il faut pas être trop grand, quand on habite, au Canada en ce moment. Mais effectivement, oui, voilà, Gary Trent, pour le reciter, qui est quand même un joueur hyper efficace au tir, il faut le rappeler, peut te permettre, d'ici et là, de remporter des matchs un peu coup près, ça pourrait arriver, mais c'est vrai que sur une série de playoffs, c'est difficile de les voir sortir, d'autres mastodontes dont on parlera, dans l'épisode suivant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les Raptors ou est-ce que justement on va conclure dans les temps pour changer du DH20? Oui, Ben, je t'ai vu lever le doigt très scolairement.
Rapidement, ce dont ils ont besoin, ça coûte cher. C'est ça qui me fait peur. Les playmakers, ça coûte cher. Protection de cercle, ça coûte cher. Donc ce dont ils ont besoin... Ouais, vas-y.
Quand tu es dans une équipe homogène aussi comme ça, c'est très difficile de... voilà, quand le plafond plancher sont assez proches, c'est-à-dire que tu n'as pas de faiblesse très fortement identifiée. Tu as des besoins... mais pas d'immenses faiblesses, et du coup, c'est plus compliqué d'ajuster à la marge. J'ai l'impression que ce type de projet, moi, c'est toujours les questions que ça me pose, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette construction des Raptors, avec cette équipe des Raptors, même si j'aime beaucoup la majorité des joueurs qui la composent, c'est que ce type de construction, je me dis, de toute façon, le plancher, il faut tout, pratiquement tout faire exploser et rechanger le cœur, les fondations de l'équipe, si tu veux pouvoir aller plus haut. Alors c'est très bien d'arriver à ce niveau-là, et puis c'est peut-être une ambition très honnête. Je reviens sur cette notion de fenêtre de temporalité, peut-être que c'est très bien à ce niveau-là. Mais pour moi, ce n'est pas en ajustant ou avec Scotty Barnes qui développerait du playmaking que tu vas devenir contender dans un futur proche. J'ai un peu de mal avec ce constat-là.
Moi, je pense quand même que pour être un peu plus positif sur les Raptors, en termes d'organisation avec Masai Ujiri, avec je répète encore, Nick Nurse, je me demande si c'est pas le meilleur coach NBA actuellement. On est sur une organisation tellement bien ficelée. Ils ont gagné le titre en 2019. C'est un peu peut-être d'une manière différente, comme on a dit pour les Grizzlies tout à l'heure. L'objectif, c'est pas forcément d'être contender, en fait, à Toronto. On a bien drafté Scotty Barnes. On a plein de pièces. On en a parlé en deux minutes. Vous avez parlé de Gary Trent, de Gianni Anunoby. On pourrait parler de Pascal Siakam. On a plein de pièces qui sont tradables, avec des salaires différents et tout. Je pense que l'objectif, c'est continuons à être bons, développons ce qu'on a à développer et on verra ce qu'on fera plus tard. J'imagine ça comme ça dans le projet Raptors. Et en attendant, ils sont plus ou moins toujours play-in, play-off. C'est ce qui montre que le projet est viable et que tu peux développer intelligemment aussi.
Ouais, tu installes aussi une image de marché, excuse-moi Ben, rapidement, après je te laisse enchaîner, mais tu développes cette image d'équipe qui gagne régulièrement, qui est toujours là, tu as un marché qui est en expansion, je pense qu'on peut le dire un peu, parce que tu as tout le marché du Canada, tout le lobbyisme de ce cher Drake derrière, donc tu te places comme une équipe qui compte, comme tu le dis, si t'as une star remontante, si Scotty Barnes doit prendre la lumière, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras enclencher un petit bouton pour essayer d'aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a une forme d'intelligence et de sagesse aussi dans la gestion des Raptors. Et je t'en prie, Ben.
Ils attendent un mec. Ils attendent un mec à trader. C'est ça, en fait. Ils attendent quelqu'un. Ujiri, il veut refaire 2019. Ils attendent quelqu'un et ils accumulent des profils qui ont de la valeur. Ils attendent quelqu'un.
Voilà. Donc, attention aux Raptors à court et moyen terme. Ce sera la conclusion pour eux pour cette saison. On se fait, y a pas d'inquiétude pour les Raptors et en même temps, pas non plus d'espoir dingue. C'est une équipe qui est assez stable, une valeur sûre, on va dire, dans cette conférence Est. Mais il y a d'autres équipes qui seront un peu plus haut, en tout cas qui sont projetées un peu plus haut par ce fameux classement d'ESPN, mais on en reparlera dans le prochain épisode, le dernier épisode des previews de cette année, cinquième épisode qui arrivera d'ici peu. Je me souviens plus de la temporalité, Ben, mais je te fais confiance, ça va aller très vite puisque la saison se rapproche. Donc dans tous les cas, ça conclut notre quatrième épisode pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous pour cette petite heure. On est dans les chronos. Hein. Cette fois-ci, on a été très bons. Donc, merci. Merci les gars. Bravo à vous. Et puis, écoutez, pour les chers auditeurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur les plateformes de streaming. Vous avez l'habitude. Laissez les notes. Ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai, on le répète à chaque fois comme si c'était un protocole obligatoire, mais ça nous fait vraiment plaisir. Donc, vraiment,
ça nous aide beaucoup.
Et ça nous aide, effectivement. Vous pouvez échanger avec nous également sur YouTube avec les previews. Pour ces magnifiques previews, justement, vous les avez en direct sur YouTube en exclusivité. Et puis sur Twitter, toujours si vous voulez débattre avec nous, nous engueuler parce qu'on n'a pas assez bien vendu votre équipe. Ça nous fait aussi toujours plaisir. On en plaisante évidemment, ça reste que du basketball. Et voilà, et on se retrouve très très vite pour l'épisode 5. Merci messieurs.
Merci Adrien.
Salut. Merci, salut. Et...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.